Radio Kapi.
Prorogation hier à l'Assemblée nationale de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Selon la ministre de la Justice, plus de 60 localités contrôlées jadis par les groupes armés dans ces deux provinces ont été récupérées. Près de 2500 miliciens se sont rendus et plus de 150 personnes libérées depuis l'instauration de l'état de siège. Au moins 3 personnes meurent par jour à Kibombo dans les Maniema, conséquence de la grève des infirmiers et des personnels administratifs des hôpitaux, selon le président de la société civile locale. Ces statistiques concernent le mois d'août dernier. Le député national Jean-Claude Kibala est notre invité ce matin. Il a conduit une délégation parlementaire en mission d'enquête sur l'exploitation minière illicite dans les territoires de Mwenga, dans le sud Kivu. Bonjour à tous. Adoption hier jeudi à l'Assemblée nationale du projet de loi portant 8e autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. 280 sur 281 députés ont voté pour et un seul a voté contre une nouvelle prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri. Dans son exposé de motifs, la ministre de la Justice, Rose Mutombo, note qu'à ces jours, 63 localités jadis contrôlées par les groupes armés dans les deux provinces sont de nouveau entre les mains des FARDC. Plus de 2460 miliciens se sont rendus avec près de 450 armes récupérées ainsi que plus de 150 personnes libérées. Cependant, les députés nationaux Jean-Baptiste Moindo s'opposent à toute prochaine prorogation, au regard notamment de la paralysie prolongée des institutions provinciales. Pour lui, les opérations militaires peuvent se poursuivre en dehors de l'état de siège. Michel Kifindangoy nous donne d'autres détails.
Justifiant des actes de tuerie observés de plus en plus dans les deux provinces sous état de siège, la ministre de la Justice estime que les forces négatives sont très affaiblies et multiplient des actions de terreur contre lesquelles les nouvelles opérations sont en cours. Rose Mutombo.
Les éléments de terrain de ces derniers jours font état des massacres de la population, les kidnappings ainsi que l'incendie des villages et champs. Il est impérieux au regard des actions de l'ennemi que les opérations de nos forces de défense et de sécurité se poursuivent.
Pour le député Jean-Baptiste Moindo, il est inacceptable et contraire à l'article 220 de la Constitution que les institutions provinciales soit paralysée pendant plus de 120 jours. Jean-Baptiste Mouindo Kasweka.
Les prorogations perpétuelles de l'état de siège s'inscrivent dans cet esprit de l'article 220 car elles empiètent sur les prérogatives dévolues aux provinces, surtout lorsque l'état de siège tarde à produire les résultats escomptés après 133 jours de son expérimentation.
Pour l'élu du Nord Kivu, l'armée et la MONUSCO peuvent poursuivre les opérations et obtenir la victoire sans forcément être en état de siège.
Les troupes kenyanes arrivées à Beni en août dernier, qui feront partie de 4 unités d'intervention rapide de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, ont débuté hier jeudi une formation sur la protection des civils. À l'ouverture de cette formation, le chef de bureau intérimaire de la mission onusienne à Beni leur a rappelé l'importance de leur mission dans cette région en proie à l'activisme de groupes armés. Écoutez Abdourahman Ganda au micro de Joël Bofengo.
C'est une formation spécifique à la protection des civils. Pourquoi spécifique? Parce qu'avant leur arrivée déjà, ils ont été formés là-bas pendant leur cantonnement à la protection des civils. Mais nous, bureau terrain de Beni, on leur fait une formation spécifique liée aux besoins de la protection des civils dans notre zone. La chose la plus importante, c'est pour leur dire la charge de responsabilité qui pèse sur leur épaule. Beaucoup d'espoirs sont mis sur leur présence en RDC. Je suis allé leur dire, nous sommes obligés, nous sommes condamnés à réussir notre mission de sécurisation de cette zone de la RDC. Je leur ai dit qu'ils sont venus ici en soutien à ce qui existe déjà à la MONUSCO, mais aussi ils sont venus pour soulager nos frères congolais de ce qu'ils vivent. Et alors pour cela, leur action doit être sur le terrain. On a besoin de sur le terrain, il doit faire des résultats sur le terrain. Les Congolais veulent voir les résultats sur le terrain et c'est ce résultat-là que nous attendons d'eux. Je ne doute pas, mais c'est juste un rappel. On a besoin de résultats sur le terrain, il doit faire la différence.
En Ituri, la société civile demande au gouvernement de renforcer l'effectif des militaires déployés au front et de les doter de moyens logistiques conséquents afin de mieux combattre les groupes armés. Cette organisation citoyenne a fait cette recommandation lors d'un point de presse organisé mercredi à Bounia. Le président de cette structure citoyenne dresse un bilan sombre de la situation sécuritaire dans la province au cours des deux dernières semaines. Elle évoque des cas de tueries, de kidnapping de civils, des incendies de maisons et de pillages de vaches. Le porte-parole de l'armée promet de se prononcer à ces sujets ultérieurement. Le point avec Jean-Claude Loki.
Dans un point de presse animé à Bounia, la société civile de l'Ituri a passé en revue la situation sécuritaire, principalement dans le territoire du Rumu, situation caractérisée selon elle par une série de violations et d'exactions commises par des rebelles des ADF ainsi que de miliciens de la CODECO et de la FPIC. Il s'agit par exemple de l'assassinat par des rebelles des ADF de 30 civils dans les villages de Luna Samboko, Ichilemba et Tibomaki. Au total, ce sont 38 personnes qui ont été tuées dans ces différentes attaques uniquement dans le territoire du Rumu. Plusieurs cas d'enlèvement des civils par des ADF ont également été enregistrés durant cette période, dont celui de 11 enfants âgés de 9 à 17 ans. À cette liste s'ajoute le pillage de plusieurs centaines de vaches. Parmi les recommandations, la société civile de l'Ituri demande au chef de l'État de renforcer en troupes et en équipement les militaires des FADC déployés au front. Pour les coordinateurs de cette structure citoyenne, la population avait placé son espoir en l'état de siège pour mettre fin à l'activisme de ce groupe armé qui, à son avis, continue à défier l'État congolais. Bounia, Jean-Claude Lokidile, Radio Kapi.
Signature du plan de transition pour le départ échelonné de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. Tel était l'objectif de la rencontre entre la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, et le premier ministre Jean-Michel Samalukonde, mercredi à Kinshasa. Ce document contient 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être fait et donc mis en œuvre pour qu'à un moment donné, la MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la RDC, a expliqué Bintou Keïta. On l'écoute dans ses propos choisis par Alain Yung.
Moi, je suis ici avec toute une équipe qui avons rencontré son Excellence, Monsieur le Premier ministre, afin de conclure le travail qui nous a tous occupés depuis l'établissement du groupe de travail conjoint le 5 juillet dernier pour signer le plan de transition de la MONUSCO et que ce plan, en le signant, soit formellement transmis au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc ce document va être discuté au Conseil de sécurité et d'ici quelques temps, nous aurons un retour de ce que les membres du Conseil de sécurité apprécient et comprennent des discussions, parce que nous avons vraiment eu des discussions et des échanges et de vrais dialogues entre la partie gouvernementale et la partie onusienne, sous le leadership de M. David Maclakankar et de toute l'équipe, à la fois des agences fonds et programmes et de la mission MONUSCO. Il y a 18 jalons et beaucoup d'indicateurs qui expliquent comment le travail doit être mis en œuvre pour que, à un moment donné, la mission qui s'appelle MONUSCO puisse partir de façon graduelle, responsable et durable de la République démocratique du Congo.
Au Maniema, je l'ai dit dans les titres, dans le territoire de Kibombo, 3 morts sont enregistrés par jour, conséquence de la grève des personnels non médecins depuis plusieurs semaines. Le président de la société civile locale qui livre l'information à Radio Kapi précise que ces statistiques concernent le mois d'août dernier. François Tamboué invite le gouvernement à agir urgemment pour arrêter l'hémorragie. François Tamboué est au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes tellement contents du budget déposé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Samalukonde, hier au niveau du Parlement. Et après les informations à notre possession, nous avons suivi que ce budget a connu une amélioration de 41% par rapport au budget passé. Cela étant, c'est une très bonne chose. Mais le gouvernement sait bien que les bancs syndicales des infirmiers a déposé son cahier des charges qui date, je crois, aujourd'hui 3 à 4 mois et qu'on ne trouve pas des solutions. Et y égard de ce budget-là, maintenant nous sollicitons que le gouvernement prenne les choses au sérieux pour que la vie des infirmiers et infirmières de la République démocratique du Congo soit améliorée. Que on puisse améliorer la vie de la profession infirmière comme d'autres professions ici en RDC, puisque ça fait un bout de temps, les infirmiers vivent dans une misère qui ne dit pas son nom. Cela étant, Nous sommes maintenant d'accord que le gouvernement va prendre les choses maintenant en main et que nous espérons que nos conditions de vie seront améliorées.
À ces sujets, le député national Toumba Tchabola Bintou plaide pour la prise en compte rapide par le gouvernement des revendications des personnels de santé non médecins en grève depuis plusieurs semaines. L'élu de Katanda a lancé cet appel en marge de la rentrée parlementaire mercredi dernier. Il estime que les conséquences de cette grève sont déjà désastreuses à travers le pays. Par ailleurs, après avoir effectué une tournée des hôpitaux publics de la RDC au mois d'août dernier et de septembre courant, il recommande aussi la réhabilitation de la construction de ces infrastructures car, dit-il, la plupart sont dans un état de délabrement très avancé. On écoute le député national Toumba Tchabola Bintou au micro d'Alain Rung.
Notre implication tous permettra de rencontrer les revendications légitimes de ces derniers, notamment l'amélioration des crédits budgétaires captés lors des travaux sur la conférence budgétaire de l'exercice 2022, l'alignement des professionnels et administratifs à la prime de risque, la signature des barèmes améliorés, l'augmentation des primes de risque, et enfin accorder les statuts spécifiques à tous les professionnels de santé. Dans le même ordre d'idées, pour accompagner le chef de l'État dans sa vision du peuple d'abord dans le secteur de la santé, pour la couverture sanitaire universelle de qualité en faveur des Congolais, nous plaidons pour la réhabilitation, voire la construction des hôpitaux de l'État à travers la République, notamment l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo, l'hôpital général de Makala, ex-Sanatorium, la clinique chinoise, l'hôpital de la Rive, ainsi que les hôpitaux et centres de santé et postes de santé de l'État dans les milieux ruraux à travers nos 145 territoires. Nous lançons cet appel après avoir fait la ronde au mois d'août et septembre.
Dans la province du Congo, des criquets ravageurs détruisent des feuilles de manioc et leurs tubercules, précisément dans les territoires de Kasongo-Lunda. Cette situation est à la base de la rareté de ce produit de première nécessité sur le marché. Le vice-président du cadre de concertation provinciale de la société civile Symphorien Kwengo indique qu'une étude de l'Institut supérieur de développement communautaire et rural du Kwango est en cours pour l'isolement de ces insectes. En attendant, il appelle l'intervention des autorités attitrées afin de trouver solution à ce problème communautaire. Symphorien Kwengo est au micro d'Irène Boma.
Dans les territoires de Kasongo-Lunda, les maniocs sont attaqués par des insectes qu'on appelle techniquement les criquets puants ou criquets ravageurs. Ces criquets sont en train de détruire systématiquement les maniocs et rendant même la production beaucoup plus faible. Et en un premier temps, il y a une étude qui est en train d'être menée pour pouvoir attraper ces criquets puants, pour les isoler, pour les anéantir. L'étude est en train d'être menée par un expert de l'ISCO en collaboration avec l'Institut supérieur de développement communautaire et rural du Kwango basé à Mawanga. Les criquets ravageurs sont en train de ravager les maniocs et cela a comme conséquence la faible production. La production n'est pas grande parce que les maniocs sont détruits. Donc même les tubercules, il n'en aura plus. Cela expose la population à la famine puisqu'il n'y a pas eu de bonne production causée par les attaques de ces criquets puants. Donc c'est vraiment un problème communautaire qui requiert une intervention urgente des autorités.
Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza, a été inhumé hier jeudi dans sa ferme à Lubumbashi. Le président de la République, qui a fait le déplacement de Lubumbashi pour la circonstance, lui a aussi rendu ses hommages. À cette cérémonie, plusieurs témoignages lui ont été rendus, vantant ses qualités d'homme d'État. Jean Gandou.
Le corps d'Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza a été exposé à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. C'est là que les différentes personnalités, dont le chef de l'État, lui ont rendu hommage en déposant leur jappe des fleurs devant son cercueil recouvert du drapeau national. Bien avant, plusieurs personnes ont témoigné de son combat. C'est notamment l'association socioculturelle Ibuluba Ibukata, la fondation katangaise qui réunit toutes les associations socioculturelles de l'espace Grand Katanga, le comité de gestion de la SNCC dont il fut le président du conseil d'administration, l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, a dans son homélie appelé l'assistance à perpétuer le combat de l'illustre disparu pour l'avènement d'un monde juste. Pendant ce temps, des centaines de personnes, drapeaux de leur parti politique à la main, étaient amassées dans les encablures du lieu de la cérémonie pour suivre toutes les péripéties et cela sous une forte surveillance des forces de l'ordre et de sécurité. Après cette messe d'action de grâce et dans l'intimité familiale qu'il a été conduit dans sa ferme de Kiambi où il va reposer désormais pour l'éternité. Notons qu'Antoine Gabriel Kyungu Akumwanza est mort le 21 août dernier des suites d'une maladie à Luanda en Angola. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le premier ministre somalien a annoncé hier jeudi qu'il n'accepte pas la décision illégale et sans fondement du président de suspendre ses pouvoirs exécutifs dans une nouvelle confrontation publique qui fragilise ce pays déjà secoué par une impasse électorale et une insurrection djihadiste. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmadjo, avait annoncé quelques heures plus tôt geler le pouvoir exécutif de Mohamed Hussein Roble et notamment ses pouvoirs de destitution ou de nomination après que les deux hommes se sont opposés à deux reprises ces 10 derniers jours sur des limogeages et nominations au sein de l'appareil sécuritaire. Une nouvelle piste sur l'origine de la récente épidémie d'Ebola en Guinée est dans une étude parue dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Un des chercheurs guinéens et français montre pour la première fois qu'une épidémie Ebola, comme celle survenue en Guinée en 2021, peut se déclarer à partir d'une souche virale dormeuse chez une personne plus de 5 ans après avoir été contaminée. Même si le phénomène serait rarissime, cette découverte souligne l'importance du suivi des survivants.
L'invité.
Notre invité est le député national Jean-Claude Kibala, chef d'une délégation parlementaire composée de 8 députés nationaux en mission d'enquête dans le Sud Kivu. Il s'exprime sur l'exploitation minière illicite dans les territoires de Mwenga. Comment y remédier? Quels sont ses effets sur l'environnement? Jean-Claude Kibala s'entretient avec Cynthia Bachizi Nabizana.
Claude Kibala, bonjour.
Bonjour, madame.
Alors, vous venez de rencontrer le gouverneur de province. Au menu de vos échanges, il y a votre mission dans la province. Qu'est-ce qu'il ressort de cette rencontre?
J'ai rappelé aujourd'hui au gouverneur, je suis venu plusieurs fois en province et j'ai évoqué cette question. Dans mes rapports parlementaires, je l'ai fait. Peut-être que cet élément du président de la FEC, son rapport après la mission sur les sites, mais aussi le rapport du journaliste Alain Foucault, c'est des gouttes qui font déborder la vase. Mais c'est bien pour la République de s'y pencher. Maintenant, nous avons dit au gouverneur que notre mission vient recueillir les informations pour aider le gouvernement central à prendre des bonnes décisions afin de permettre à la population d'abord locale qui est au-dessus de ses richesses mais qui n'en profite pas et de protéger l'environnement. Deuxièmement, permettre aussi l'État congolais à pouvoir, dans le cadre de redevances minières, pouvoir avoir des moyens de gérer son État. Le troisième élément, nous allons aussi voir s'il n'y a pas de possibilité de modifier le code minier si nous constatons qu'il y a des vides juridiques qui permettent aux opérateurs économiques de pouvoir se comporter comme ils se comportent aujourd'hui.
Le gouverneur de province a suspendu certaines sociétés accusées d'une exploitation minière illégale à Mwenga. Est-ce que vous pensez que le gouverneur de province est allé vite en besogne?
De toute façon, nous ne venons pas juger les actes du gouverneur. Même le ministre a agi. Pourquoi maintenant? Parce que vous savez qu'il y a un collègue député originaire d'ici, Didier Okito, qui a fait déjà une question orale au ministre de Mines sur la question. Donc, en tant que député, nous avons déjà saisi le gouvernement par rapport au problème. Je ne sais pas juger exactement la raison. Le gouverneur nous a dit qu'il a envoyé des missions sur le terrain. C'est ces missions qui lui ont permis de prendre des actes. Mais en tant que commission, nous allons constater exactement si chacun a joué son rôle, comme il est faut, conformément à la loi. Nous allons le constater sur le terrain.
Que pouvons-nous attendre concrètement de cette mission parlementaire à Mwenga?
Il ne faudrait pas que les gens pensent que nous, en tant que députés, nous allons tout de suite changer les choses. Nous sommes une chambre de représentants. Nous avons une mission prioritaire, c'est de faire des lois, mais aussi de contrôler le gouvernement. Nous sommes dans le cadre de cette deuxième mission, contrôler le gouvernement. Nous allons faire notre rapport à la plénière. L'Assemblée prendra des décisions. Certainement. Nous espérons que, à partir de notre mission, nous allons réveiller le gouvernement congolais pour qu'il puisse réellement faire son travail afin que le Congolais profite de leur richesse.
Mais comment expliquer que depuis des semaines, depuis des mois et des années, des expatriés exploitent illégalement l'or dans Mwenga, au vu aussi de tout le monde, sans pour autant qu'ils ne soient inquiétés?
Si je commence à faire des conclusions, je vais condamner les gens avant de les écouter. Je vous dis tout simplement que personnellement, et ça c'est tout à fait, ça saute aux yeux, je ne pense pas qu'un Chinois, un Français, un Belge, un Burundais, un Rwandais peut quitter son pays, il passe par la frontière, la DGM, il attrape un visa, et puis il arrive ici, il a même une carte d'établissement, il a une carte de travail, et il va se rendre à Mwenga, ou bien à Fizi, ou à Shabunda, ou bien à Kamina, et là-bas, il va commencer à exploiter sans que l'autorité ne soit informée, à n'importe quel niveau. Deuxièmement, vous avez la présence d'un policier, on nous dit des policiers, des militaires, à leur côté, qui donnent des autorisations, qui donnent des ordres de mission à ces officiels pour aller garder sécuriser ces entreprises. Donc ces entreprises sont ici avec la complicité de Congolais. D'abord, c'est pour ça que je dis, bon, on va s'attaquer aux étrangers, mais moi, je pense qu'il y a un problème, un souci de l'autorité de l'État qu'il faut gérer.
Donc un coup de balai s'impose dans les services attitrés ?
Il est faux. Bon, comme je dis, ce sera au Parlement de prendre des décisions. Si ça dépend que de moi, il faudrait des mesures très dures parce que nous perdons beaucoup d'argent. Et ce qui est grave, non seulement que nous perdons de l'argent, mais on nous laisse aussi des déchets que nous allons garder, des problèmes alimentaires que nous allons gérer avec de l'argent que nous sommes obligés de chercher ailleurs. Ça ne sera plus dans les mines parce qu'il n'y en aura plus. Aujourd'hui, vous avez vu les conséquences de l'exploitation minière dans un pays voisin frontalier en Angola qui a créé des dégâts. Jusqu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas puiser de l'eau dans une rivière au Kasaï. Mais ici, qu'est-ce qui se passe dans nos rivières à Chabunda, à Mwenga, avec l'exploitation qui est là? Combien de kilos de mercure, de cyanure sont dans l'eau là-bas? Nous sommes venus ici peut-être pour faire un travail que beaucoup de gens avaient peur de toucher parce que chaque fois ici qu'on pose des questions, non, ce secteur-là, il ne faut pas y entrer, il y a beaucoup d'intérêt. Bon, nous voulons montrer qu'il n'y a personne qui est au-dessus de la loi.
Claude Kibala, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi.